L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, on parle d'une exposition, celle qu'on peut voir en ce moment au musée de TC, Le choix de la peinture, une autre histoire de l'abstraction, qui s'étend sur la période de 1962 à 1989. Et pour en parler, je suis avec Françoise Froger-Jolivet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, puis nous serons avec une des intervenantes des Carrefours de la Pensée, Pascale Tumrel, dont l'intervention porte sur la responsabilité sociétale des industries culturelles. Et enfin, nous finirons cette émission, comme tous les jeudis, avec la chronique de Clémentine. Tout de suite, on commence avec notre invité du jour.
Plus on est de fouet, plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fouet, plus on s'emmerde.
Françoise Froger-Jolivet, vous êtes commissaire générale du musée de TC et vous venez nous parler de l'exposition qui occupe le musée du 10 février au 9 juin, intitulée « Le choix de la peinture, une autre histoire de l'art abstrait suivie d'un cadre chronologique 1962-1989 ». Alors pourquoi ce cadrage ? Est-ce qu'on date l'apparition de la peinture abstraite de 1962 seulement ? Je ne crois pas.
Ah non, pas du tout. En fait, c'est la suite d'autres expositions. La peinture abstraite, elle naît au début du XXe siècle, mais c'est vrai qu'elle va vraiment être exposée dans des galeries, dans les musées, plutôt après 1945. Et il s'avère qu'avec mon collègue Victor Van Oosten, avec qui j'avais fait plusieurs expositions, on avait fait une exposition il y a quelques années qui s'appelait « Au cœur des abstractions, Marie Raymond et ses amis ». Marie Raymond étant la mère d'Yves Klein, pardon. Et en fait, on parlait de l'abstraction plutôt lyrique en France des années 45 jusqu'à la fin des années 50.
D'accord.
Et après, on s'est dit, pourquoi pas faire la suite ? Et c'est comme ça que cette exposition est née.
Alors, est-ce qu'on parle d'une autre histoire de l'art abstrait ? Est-ce que cette exposition vient interroger des considérations canoniques de l'histoire de l'art ?
En fait, c'est un petit peu nouveau parce qu'on fait se confronter, ou plutôt dialoguer, des artistes qui seraient plutôt, qu'on dit souvent, en rupture. Mais en fait, on s'aperçoit que ces trois décennies d'artistes qu'on a essayé d'exposer, en fait, se sont regardés aussi. Et donc, on voulait montrer qu'il y avait une petite continuité. Surtout, on voulait montrer que, en fait, à partir de la fin des années 60, l'abstraction est considérée comme ringarde.
D'accord.
C'est vraiment la peinture de papa, c'est la peinture des salons, c'est salon bourgeois. Et la peinture elle-même est morte, est considérée comme morte. C'est l'époque, c'est l'époque du pop art aux États-Unis, donc avec tout ce qui concerne la publicité. Et c'est l'époque des nouveaux réalistes en France, qui sont ces artistes, c'est César avec ses compressions, c'est les affichistes comme Villegléens, en fait, qui ne peignent pas, qui déchirent des affiches sur les panneaux publicitaires, etc., et qui recomposent des tableaux. Mais la peinture n'intervient pas. Et nous, on voulait dire, on s'est dit, la peinture est morte, nous, on dit vive la peinture, et on a montré comment l'abstraction et la peinture se renouvelaient.
Alors, à partir de maintenant, je m'appuie sur le descriptif de l'exposition qu'on peut consulter sur lemans.fr. L'après-guerre se caractérise par, je cite, vous l'avez dit d'ailleurs, le triomphe de l'abstraction lyrique et gestuelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Comment l'abstraction, elle peut être lyrique ?
Parce que c'est une abstraction qui est à la fois informelle, qui est basée sur la couleur et sur le geste.
D'accord.
Le geste souvent, très spontané, c'est-à-dire que les peintres, pour beaucoup, en fait, partent directement sur la toile avec des grands gestes, avec beaucoup de couleurs. C'est pour ça que souvent, ce sont des grands formats, parce qu'il y a aussi toute la participation du corps. Donc, il y a un côté, il y a un côté très lyrique.
C'est-à-dire un côté expression de soi,
voilà,
un peu
expression
grandiloquent.
De soi, voilà. Et en fait, on a plutôt, on va dire, deux types de peintres abstraits lyriques. On a ceux qu'on pourrait presque appeler les non-figuratifs, c'est-à-dire qu'ils vont partir de la nature ou d'un souvenir et qui vont transcrire leurs émotions par la peinture abstraite et la couleur.
Okay.
Donc, ils partent de quelque chose. Et il y a ceux qui partent directement sur la toile sans aucun, sans aucune réalité, réalité première.
C'est l'équivalent de l'écriture surréaliste automatique, quoi.
Un petit peu, on en est... Voilà.
Alors, c'est cette abstraction lyrique qu'il faut dépasser pour les peintres de la période qui concerne l'exposition ?
Eh bien, en fait, comme cette abstraction ne plaît plus, en fait, ils vont se renouveler. Et d'accord. Ce qu'on voulait montrer, c'est à quel point ils se renouvelaient et qui n'étaient plus du tout. Enfin, certains vont rester un peu plus longtemps, mais il y en a beaucoup qui vont, pour en finir avec ce lyrisme, justement, aller vers des peintures plus méditées, plus maîtrisées, parfois un peu plus conceptuelles, et certains avec plus ou moins de gestualité ou non. Il y a certains peintres qui sont très... c'est la trace, c'est vraiment... Et on va arriver jusqu'au moment où... on va être dans la non-expression. Il n'y a plus de vision personnelle, il n'y a plus de vision expressive. C'est la peinture pour elle-même et avec la neutralité, la simplicité, l'absence d'expression, etc.
Alors, si j'ai bien compris, cette exposition, comme vous l'avez dit, elle se décompose sur trois générations d'artistes. Est-ce que vous pouvez nous résumer très brièvement, parce qu'on va rentrer plus en détail après, ces trois mouvements, en fait, qu'on ait le schéma en tête?
Alors, on commence par un rappel un petit peu de tous ces abstraits lyriques encore en 62. On commence par la Biennale de Venise 62, qui était une foire internationale d'art contemporain, où là, on a encore... En fait, ce sont les abstraits lyriques qui prédominent. Et puis ensuite, donc on finit avec ce lyrisme et on va vers ce que je vous disais, quelque chose de plus maîtrisé, de plus médité, quelque chose qui évacue complètement cette vision expressive, en fait, pour arriver avec, dans les années 70, avec le mouvement support-surface, où là, on déconstruit. Mmh. On déconstruit complètement le tableau et la peinture. Et en fait, on s'intéresse aux éléments constitutifs. Donc, il y a certains artistes qui peignent sans châssis, etc. Mmh. Et au départ, on voulait s'arrêter à la fin des années 70.
Ouais.
Mais on s'est dit, c'est un peu le degré zéro de la peinture. Donc, en fait, dès la fin des années 70, on sent qu'il y a un retour au tableau. Et donc, c'est ça qu'on a voulu montrer dans la dernière...
Ça, c'est très intéressant, je trouve. On va y en revenir dessus. Mais d'abord, on s'attarde un peu sur cette période à partir des années 60 où les artistes simplifient leurs pratiques. L'abstraction n'est plus le lieu du lyrisme et de l'expressionnisme, mais une interrogation sur les moyens de la peinture. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement?
Alors, les moyens, ça peut être à la fois les outils. Certains peintres vont inventer de nouveaux outils. Martin Barry, par exemple, va faire des toiles avec une bombe à aérosol.
Ouais.
Hartung, après, pulvérisera avec un pistolet ses couleurs. Et puis, ils vont maltraiter la toile, par exemple.
Ouais.
Ils vont, quelqu'un comme Simon Anta, il va froisser ses toiles, il va ensuite passer, aplatir le tout, puis mettre de la couleur, attendre que ça sèche et déplier. En fait, il peint à l'aveugle. Il y a ce côté hasard qui intervient parce que, justement, on veut pas qu'il y ait, la moindre expression.
Alors j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur un tableau qui personnellement m'a assez fasciné, je dois dire. C'est etc. 5 de Jean de Gotex. Alors il s'agit simplement d'une trace noire sur une toile blanche. Et dans le petit texte qui accompagne le tableau, on peut en savoir plus sur sa démarche. Mais je vais peut-être vous laisser l'expliquer tout
Alors,
simplement.
ETC.
Ouais. ETC, c'est pas etc.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que Jean de Gotex a commencé avec l'abstraction lyrique.
D'accord.
Et puis, il en est venu à s'intéresser sur la couleur, parce que là, le noir, puisqu'il s'agit du noir, est une couleur. Comment, par cette trace, elle va jouer dans l'espace, elle va créer des relations entre le plein et le vide, etc. Et en fait, De Gotex était un artiste qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui était peinture et calligraphie chinoise. Et il s'est beaucoup inspiré d'un traité chinois dont un des chapitres s'intitule « L'unique trait de peinture ».
D'accord.
Parce que pour les peintres chinois, ce trait, en fait, c'est lui qui va organiser l'univers. Mmh. Quand on voit une peinture chinoise, vous avez le trait qui organise les formes. Et en fait, lui, il fait la même chose, mais avec l'art abstrait, en abstractisant, on va dire, ce geste.
Mais en fait, on est arrivé à un geste qui est extrêmement radical.
Oui.
Il y a dans cette démarche une espèce d'auto-anéantissement de la peinture, en fait, non ?
C'est presque le langage ultime, mais en même temps, c'est le début de quelque chose aussi de nouveau.
D'accord. Parce que moi, j'avais demandé comment est-ce qu'on fait de la peinture après ça. Quand on est arrivé à ça, comment est-ce qu'on continue, quoi ?
Ben, y en a beaucoup qui se sont arrêtés. Enfin, il y en a qui sont devenus, enfin, qui ont arrêté la peinture. Puis il y en a qui ont rebondi sur autre chose. Il y en a qui sont devenus figuratifs. Mmh. Et puis il y en a qui ont réinventé, réinventé d'autres, d'autres choses. Des gens comme, par exemple, Pierrette Bloch, parce que je tiens à parler des femmes quand même aussi, hein, même si elles n'ont pas eu un rôle facile à l'époque, parce que c'était pas encore la mixité
absolue. Il y en a quelques-unes dans la dernière partie de l'exposition.
Oui, oui. Et Pierrette Bloch, en fait, elle, qui était une grande amie de Soulages, elle peint avec un pinceau de calligraphe chinois. Et elle, au son de la musique, en fait, elle fait des petits points.
D'accord.
En fait, c'est une écriture, c'est une nouvelle écriture. En fait, on passe à une nouvelle écriture par rapport à l'écriture et au signe qu'il y avait dans l'abstraction lyrique.
Alors, pour en revenir plus largement aux problématiques de cette exposition, en fait, cette interrogation sur la peinture elle-même mène à un abandon du tableau. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par tableau, en fait ? Qu'est-ce que c'est, le tableau ?
Alors, un tableau, c'est un support et c'est une surface.
D'accord. Voilà. Donc là, on en vient à...
Support-surface. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de ces peintres vont aussi abandonner la peinture de chevalet. C'est-à-dire cette peinture avec ses dimensions qu'on pose. Ils vont peindre sur des toiles très, 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 très vastes. Ils vont peindre parfois sur des matériaux complètement différents de la toile. Et en fait, ils vont déconstruire la peinture en s'intéressant à ses éléments constitutifs. Mmh. Donc, quelqu'un comme Claude Viala, par exemple, un des grands membres de Support Surface, va peindre sur des draps.
D'accord.
Mais sans tendre son support sur un châssis. Il nie complètement le châssis sur lequel d'habitude on tend la toile pour le tableau de chevalet. Il y en a d'autres qui vont, comme Buraglio, qui vont peindre des toiles et qui vont découper des triangles, qui vont les agrafer. Donc on n'est plus dans cette notion de peinture traditionnelle et de peinture de chevalet traditionnelle.
Alors pour avoir visité l'expo, j'ai même vu des nœuds de corde peints, en fait, c'est ça ?
Oui, alors c'est toujours Claude Viala, c'est-à-dire qu'il part du principe que la toile, dans la toile ou dans le drap, il y a des fils.
D'accord, ouais.
Et donc, en fait, il se dit, bah voilà, ces fils, moi, je les utilise en peinture.
Ok,
voilà.
D'accord.
Parce qu'il ne faut jamais oublier que ces peintres, pour eux, la peinture est quand même au centre de leurs préoccupations. Mmh. Et oui, ça, c'est très important.
Alors, leurs œuvres qui abandonnent le support traditionnel de la toile tendue, est-ce qu'elles ne posent pas aussi quelques difficultés à être exposées ? En fait, est-ce que la question de l'exposition est au centre de leur démarche ?
Le problème, c'est que tous ces artistes, comme De Cotex, comme Support Surface, à l'époque où ils ont travaillé, personne ne les exposait.
D'accord.
Les musées étaient toujours très frileux. Il y avait quelques galeries, en particulier une galerie très importante qui s'appelle la galerie Jean Fournier, qui était une galerie historique. Et Jean Fournier était quelqu'un qui exposait tous ces artistes avant-gardistes, on va dire. Mais autrement, ils exposaient le Support Surface, ils exposaient parfois dehors, etc. Et ils étaient un peu, après mai 68, juste après mai 68. Donc, on est aussi contre les institutions, contre le marché de l'art. Voilà.
Donc, il y a l'idée quand même de déplacer l'œuvre d'art, en fait, hors de ce cadre.
Ils se prennent plus, ils ne signent pas.
Ils ne signent pas aussi.
Non, ils ne signent pas. Donc c'est plutôt souvent ils utilisent, par exemple, Viala utilise, enfin dans la peinture qui est au musée, il peint avec du bleu de méthylène, qui n'est pas du tout un pigment qu'utilisent les peintres, mais c'est un peu aussi pour désacraliser la peinture.
Oui, la désacralisation de la peinture, c'est central chez eux.
Voilà.
Et vers 1980, pourtant, le tableau s'impose à nouveau. Alors ça, je trouve ça incroyable. Pourquoi ce retour en arrière si c'en est un ?
Alors, sans que ce soit un retour en arrière, en fait, je pense qu'il y avait aussi peut-être que certains artistes avaient fait le tour. Et puis surtout, il y en a qui vont. On n'avait pas du tout prévu de faire le début des années 80, mais on s'est dit, mais on ne veut pas finir par le degré zéro de la peinture.
Ouais.
Et on veut montrer qu'à partir de la fin des années 70, effectivement, il y a des peintres qui reviennent au tableau, le tableau de chevalet, et qui vont, en fait, remettre un peu le geste. Enfin,
qu'est-ce qui se joue désormais dans l'espace du tableau ?
On revient vraiment à la couleur qui va prendre beaucoup d'espace. Alors, ils n'aiment pas qu'on parle d'abstraction lyrique, ces artistes des années 80, parce que c'est plus maîtrisé, c'est plus médité, etc. Mais on revient au geste, on revient à la couleur. Et puis, certains artistes, comme Christian Bonnefoy, par exemple, qui a fait l'affiche de l'exposition, lui revient au tableau en montrant qu'un tableau est fait de plusieurs éléments. Et donc, parfois, il utilise souvent de la toile de tarlatane, qui est une toile assez transparente, pour qu'on voit le châssis derrière.
D'accord.
Parce que pour lui, le châssis est partie intégrante de tous ces éléments du tableau.
Ah oui, il y a presque un côté structuraliste, en fait,
à mettre en avant lui, tous les éléments. Un petit peu.
Alors, les peintres de la période 62-89 se sont donc surtout interrogés sur la notion de peinture, comme vous l'avez relevé.
Et de couleur.
De couleur, c'est ça. Mais alors, sur quoi précisément portait cette interrogation? Et est-ce à dire, en fait, qu'en peinture, il n'a pas toujours été affaire de peinture?
Je crois que la peinture est toujours présente.
Mmh.
C'est toujours une affaire de peinture pour moi.
D'accord.
Sauf justement pour ceux... on n'a pas parlé justement on a montré l'abstraction et la peinture dans l'abstraction en France, mais c'est vrai qu'il existe d'autres choses. Dans les installations, il n'y a plus de peinture. Dans certaines performances, il n'y a pas de peinture. Donc c'est vrai qu'il y a tout un courant artistique, plusieurs courants artistiques qui n'utilisent pas, où la peinture n'est pas au centre de leur préoccupation.
Mais là, du coup, c'est carrément un autre art que la peinture dans ce cas-là. C'est ce que je veux dire, c'est que il y a certains artistes de l'exposition, leurs interrogations portaient, il me semble, en tout cas en ayant lu les petits textes qui accompagnent les tableaux, qu'ils considéraient que la peinture n'a pas toujours été au centre de la peinture, en fait, qu'on a peint sans savoir ce que c'était que de peindre, quoi.
Ah non, pas du tout. Je pense qu'ils s'interrogent différemment sur la peinture.
D'accord.
Mais ils ont toujours pensé que la peinture était au centre de la peinture.
Et d'ailleurs, ces artistes, combien sont-ils réunis dans cette exposition?
Alors, on a été obligé de faire un choix, parce qu'on ne peut pas accrocher tout le monde. Et puis, encore une fois, ils sont aussi inspirés par l'abstraction américaine. Donc, ils peignent souvent sur des très grands formats.
D'accord.
Donc, on avait une grosse liste, une liste de très nombreux artistes. On a fait un choix, ou sur fonction des prêts, bien sûr. On a 46 artistes, je crois qu'il y a 65 peintures exposées, et on a 39 prêteurs.
39, pardon ?
Prêteurs.
Ah, d'accord, ok.
Voilà.
Et dans la présentation de l'expo, alors, sont mis en exergue certains noms, comme Serge Poliakov, Gérard Schneider, Simon Taille, Claude Vialat, dont vous avez pas mal parlé, Pierre Soulages également. Vous pouvez nous dire un peu plus sur certains de ces noms ?
Alors, ce sont tous des artistes que j'aime énormément.
Enfin,
c'est vrai qu'il y a des artistes qui nous touchent plus que d'autres. C'est vrai que moi, l'abstraction lyrique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Serge Poliakov, c'est un peintre vraiment qui me touche énormément, parce que c'est un travail sur la couleur, sur la matière. Donc lui, il ne cherche pas à dire quelque chose. C'est vraiment, et pourtant on est dans cette abstraction quand même lyrique, mais ce n'est pas un lyrique comme Schneider qui lui part directement sur la toile, ou comme Manessier qui, c'est pareil, peint des tableaux où on sent le geste, on sent les touches, on sent le mouvement aussi et le dynamisme. Donc ça, ce sont des peintres qui travaillaient, qui ont beaucoup déjà, qu'on a exposé à partir des années 45. Là, on les avait déjà exposés dans la précédente exposition. Mais voilà, ils se renouvellent aussi à partir des années 60.
Alors, un des peintres, moi, qui m'intéresse pas mal, c'est Pierre Soulages, notamment pour sa période de l'outre-noir, alors qui n'est pas visible dans l'exposition. Mais par contre, on voit le cheminement vers cette période-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça?
Alors, on aurait bien aimé avoir un outre-noir.
Ouais.
On en avait... Alors, le problème des outre-noirs, c'est que ce sont de très, très, très grands formats.
Oui.
On en avait trouvé un, mais malheureusement, dans un musée, mais malheureusement, il était déjà prêté.
Ah.
Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, dans la première salle, on a beaucoup de peintures sur papier, parce que Soulages, je ne voulais pas dire que l'encre de Chine, c'était une technique de dessin.
D'accord.
On parlait de peintures sur papier, où on voit déjà que par rapport aux années 50, où les tableaux étaient... très construit, là, il diffuse la peinture, il diffuse la couleur noire sur le papier. Et dans la salle où on a le musée des abattoirs qui nous a prêté vraiment un très très beau tableau, où on voit qu'il y a ces aplats de noir, il y a des endroits où le noir est un petit peu plus épais, donc où la lumière joue de manière différente, et où comment le blanc justement ressort de manière éclatante. Et dans ce tableau, il y a aussi encore l'utilisation du brou de noix, que Soulages a beaucoup utilisé, qui était un vernis d'ébénisterie, qui donne cet aspect.
D'ailleurs, il y avait quelque chose de très beau dans un des textes qu'on peut lire dans l'expo, c'est que Soulages révèle qu'en fait, c'est pas tellement le noir qui fait l'effet de la peinture.
C'est le blanc.
C'est ça, c'est le blanc. Alors que c'est comme toute sa peinture, c'est le travail du noir. C'est...
Ben oui, et pourtant, il y a toujours cette anecdote qu'on raconte que quand il était beaucoup très jeune, il avait pris une feuille blanche et puis il était en train de mettre du noir dessus. Et ses parents lui ont demandé « qu'est-ce que tu fais ?» Il a dit « je dessine la neige ». Donc voilà, en fait, c'est ce rapport entre le noir et le blanc, ce rapport de la lumière aussi, qui est chez lui évidemment absolument primordial.
Donc c'est presque comme s'il peignait en négatif, en fait, quoi.
Un petit peu, un petit peu.
Alors, est-ce qu'il y a des visites guidées possibles pour cette expo ?
Oui, oui, il y a des visites qui sont proposées certains samedis. Alors, il y a beaucoup de visites qui sont déjà complètes, mais il faut se renseigner auprès de l'accueil du musée de TC. Voilà.
Et comment, de manière générale, est-ce que vous conseillez de visiter cette expo ? Comment on visite une expo d'art abstrait ?
Alors, c'est ce que je dis toujours, parce qu'il y a souvent un public qui n'est pas familier avec l'art abstrait et qui arrive en disant « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Ou « moi j'y vois, peut-être que je me trompe ». En fait, on a le droit d'y voir ce qu'on veut, c'est ce que disait Soulages d'ailleurs. Hein, il disait « mais c'est aux visiteurs, c'est aux spectateurs de voir ce qu'il a envie de voir ». Et je crois qu'il faut aussi se laisser porter, c'est un petit peu comme la musique. Je veux dire, quand on écoute de la musique, on est touché, ça nous fait pleurer, ça nous procure de la joie. Et quand on regarde en fait un tableau, une peinture abstraite, je crois qu'il faut se laisser porter par les formes, par la couleur, et voilà, éventuellement y trouver quelque chose, parce que mais pas forcément.
Eh bien, merci beaucoup Françoise Froger-Jolivet pour nous avoir parlé de cette exposition sur l'art abstrait des années 62 à 89.
Merci à vous.
L'expo est visible au musée de TC jusqu'au 9 juin, si je ne m'abuse. Je n'ai plus noté la date à la fin, mais il me semble que c'est ça. C'est gratuit, c'est au musée de TC, aux horaires d'ouverture. Je me suis perdu ma feuille, c'est à ça. Alors, on fait une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Armand Méliès, soirée Onde Silencieuse le 24 mars, au théâtre de Chaoué, en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Madrugada, Strange Color Blue. Retour dans l'amphi pour parler de l'intervention de Pascal Tumrel au Carrefour de la Pensée. Pendant qu'on l'écoute, vous pouvez gagner des places pour Mama Lenz et Dorian Dumont le 28 mars au Sornières. en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute l'interview de Pascal Tumrel.
Plus on est de fouet, plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fouet, plus on s'emmerde.
Je suis avec Pascal Tumrel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes enseignante à l'ESCP Business School ainsi qu'à Sciences Po. Vous avez également été directrice de la responsabilité sociétale du groupe Vivendi pendant 15 ans jusqu'en 2017. Vous participez au Carrefour de la Pensée et vous intervenez le vendredi après-midi. Votre prise de parole porte sur la responsabilité sociétale des industries culturelles. Alors j'aimerais que l'on commence par définir les termes de cet intitulé. Qu'est-ce que c'est la responsabilité sociétale ?
Alors la responsabilité sociétale, on peut la définir comme la contribution des entreprises au développement durable, dès lors que le développement durable n'est pas réduit à sa dimension environnementale. En fait, c'est un outil d'analyse et de pilotage des entreprises qui permet d'identifier les effets que les entreprises produisent sur la société par leur activité et leur chaîne d'approvisionnement. Et en fait, ça concerne tous les partenaires et fournisseurs qui concourent à leur offre de services ou de biens. Par conséquent, c'est à la fois un outil de pilotage qui permet à l'entreprise et à ses parties prenantes de définir la stratégie, les objectifs, les indicateurs, la vision et surtout de donner aux parties prenantes les moyens de l'interpeller, de la questionner sur sa responsabilité.
D'accord. Donc si je comprends bien, la responsabilité sociétale, en fait, c'est l'implication d'une entreprise quant à un impact positif sur la société, que ce soit sur des questions sociales ou environnementales. C'est ça ?
Pas seulement positif.
D'accord.
En fait, dès qu'on définit, quand on est une entreprise, si vous voulez, la responsabilité sociétale d'entreprise, ça fait partie des fondations de sa stratégie. Ça lui permet de définir sa raison d'être, d'étayer son activité, d'anticiper des risques dans un contexte concurrentiel et de mobiliser ses partenaires, qu'ils soient internes, c'est-à-dire ses collaborateurs et collaboratrices, mais aussi externes, c'est-à-dire les consommateurs, les fournisseurs, les investisseurs, les pouvoirs publics, toutes les ONG, tout ce qui opère autour de l'entreprise et qui lui permet de mieux appréhender l'impact que cette entreprise a et sur la société et sur l'environnement.
D'accord. Alors, dans l'intitulé de votre intervention, vous parlez également d'industrie culturelle. À quoi est-ce que vous faites référence exactement ?
En fait, les industries culturelles, je le définis en effet par rapport au terme de l'UNESCO, c'est-à-dire que ça concerne les industries qui produisent et diffusent des biens ou des services considérés au moment de leur conception comme possédant une qualité, un usage ou une finalité qui incarne des expressions culturelles. Donc ça concerne aussi bien les secteurs traditionnels, art du spectacle, art visuel, ou bien des secteurs comme les films, les DVD, les vidéos, les médias, les jeux vidéo, la musique, les livres ou la presse. Donc c'est un secteur très large en effet.
Ok. Alors vous avez été pendant 15 ans directrice de la responsabilité sociétale du groupe Vivendi, une entreprise du CAC 40. Or le CAC 40 est quand même souvent désigné comme responsable d'une grande partie des émissions carbone qui menacent l'environnement ou bien de politiques salariales aliénantes. Concrètement, comment avez-vous pu contribuer à mener le groupe Vivendi vers une gouvernance responsable ?
Alors déjà, j'étais pas seule à mener la gouvernance. Ce qui a été passionnant pendant cette expérience entre 2001 et 2016, c'est de définir la contribution d'un groupe comme Vivendi au développement durable.
D'accord.
Et c'est comme ça que j'ai défini ma politique RSE. C'est-à-dire que j'étais moins sur l'empreinte carbone, qui est certes importante pour le secteur, mais ce n'est pas le secteur le plus exposé aux enjeux environnementaux, que sur l'empreinte cérébrale.
D'accord.
C'est-à-dire que je me suis vraiment obligée à comprendre, quand on est un groupe international à l'époque qui rayonnait dans 60 pays et qui concernait des millions de consommateurs, comment la création, la production et la distribution de contenu pouvaient permettre d'avoir un impact positif au sens où on promouvait la diversité culturelle dans les investissements de contenu artistique. On accompagnait la jeunesse dans un environnement numérique qui n'était pas du tout régulé à l'époque, puisque la dimension technologique va plus vite que l'état de droit, le droit. Comment on anticipait des risques ou au contraire qu'on essayait de définir des opportunités. Autre responsabilité qu'on avait, c'était de s'assurer qu'on avait une politique éditoriale la plus indépendante possible, garantissant un pluralisme de contenu. Et aussi, on avait la protection des données personnelles comme enjeu spécifique à notre cœur d'activité. On avait également aussi d'autres enjeux RSE, mais qui sont communs à des entreprises de d'autres secteurs.
Alors, et qu'est-ce qui vous a amené en fait à arrêter vos fonctions au sein du groupe Vivendi ?
J'ai eu 15 années passionnantes avec des dirigeants qui étaient favorables à cette démarche, qui étaient créatrices de valeur pour l'entreprise et pour les parties prenantes. Et puis il y a eu un changement de cap qui a pris une ampleur, j'allais dire, fin 2016, début 2017. Et donc, suite à un désaccord, je suis partie.
Alors, dans le résumé de votre intervention pour les carrefours de la pensée, on lit une sorte de mise en garde face aux industries culturelles. Quel est le danger que vous désignez concrètement ?
Le danger, c'est une ignorance de la part des citoyens sur l'impact de ce secteur et sa sphère d'influence. C'est-à-dire, c'est un secteur qu'on peut avoir un petit peu du mal à définir, appréhender, mais en réalité, c'est un secteur très puissant en termes de revenus économiques et de création d'emplois, qui exerce sur les esprits une influence considérable. Et les parties prenantes, donc toutes les personnes qui ont un lien avec les entreprises, avec ce secteur, doivent prendre conscience de cette influence afin de les interroger sur la manière dont leur offre de biens ou de services crée de la valeur pour l'entreprise, certes, mais aussi pour les entreprises affectées par leur activité. Et ce que j'écris dans le livre, c'est qu'il y a en effet une façon dont ces entreprises affectent le bien commun, mais je ne me limite pas à dénoncer cet effet. J'essaie de comprendre pourquoi et je propose aussi des solutions pour remédier à cette fièvre.
Et en fait, qu'est-ce qui est en jeu vraiment dans le rapport que nous avons avec ces industries culturelles ? Est-ce que votre inquiétude porte sur le traitement de l'information uniquement, pas seulement ?
Ah non, pas du tout. J'explore plusieurs facettes de la manière dont ces entreprises peuvent affecter le bien commun. Bien sûr, il y a la désinformation qui est un danger très, 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 très prégnant. Mais il y a aussi la représentation et la place des femmes dans ces industries. Il y a ce que j'appelle l'exploitation des cerveaux des enfants et des adolescents. Et aussi la diversité culturelle des expressions artistiques qui peut bénéficier d'un côté de l'impulsion donnée par le numérique, mais qui, sous d'autres aspects, peut être menacée par cette emprise du numérique.
D'accord.
Donc ça, c'est un peu les quatre enjeux que je traite et puis dans cette première partie du livre.
Alors, le 29 février dernier, les principales figures de CNews, chaîne du groupe Canal dirigée par Vincent Bolloré, faisaient face à une commission d'enquête au sujet de leur non-respect de la convention qui lie la chaîne avec l'ARCOM sur le pluralisme des prises de parole. Les chaînes du groupe Bolloré sont en effet accusées de sacrifier l'information au service d'un discours d'opinion orienté à l'extrême droite. Quel regard est-ce que vous portez sur ces accusations de chaînes du groupe Vivendi auquel vous avez travaillé auparavant ?
Alors, au-delà des chaînes de ce groupe, je pense que ce que vous dites sur les conventions sont très intéressantes parce qu'une chaîne, contrairement à un réseau social, elle signe avec l'autorité de régulation une convention en échange de quoi elle dispose d'une ressource sur la TNT, une fréquence. Et c'est vrai que ces obligations, elles sont de l'ordre de la déontologie, du pluralisme, de la représentation de la diversité, des droits de la personne, de la protection des mineurs, etc. Et de l'indépendance éditoriale. Donc après, pointer les manquements des chaînes à l'égard de leur convention, c'est en fait pointer le respect ou pas de l'état de droit. Donc après, il faut bien sûr nourrir ces manquements avec des faits précis et des allégations qui se réfèrent à des émissions. On a vu par exemple concernant C8, on a vu que Cyril Hanouna avait avait fait appel de décision de l'ARCOM auprès du Conseil d'État, que le Conseil d'État avait, avait confirmé les sanctions de l'ARCOM et qu'il a fait appel à la Cour européenne des droits de l'homme, laquelle Cour a rendu un avis en février 23 disant qu'il n'y avait pas eu violation de la liberté d'expression, mais au contraire a rappelé à CNews ses responsabilités en disant d'une part que le droit à l'humour ne permettait pas tout et que quiconque se prévalait de la liberté d'expression assumait des devoirs et des responsabilités, et d'autre part elle soulevait le fait que cette émission rencontrait une grande écoute auprès des jeunes adultes. Et que justement la responsabilité à l'égard des mineurs était engagée. Il y avait aussi une autre émission où C8 avait été accusé d'avoir contribué à une image dégradante des femmes et des personnes homosexuelles. Concernant le deuxième cas, il y avait notamment des images stéréotypées des personnes homosexuelles et violations de la vie privée, puisqu'il avait donné rendez-vous en direct par téléphone suite à une annonce à des personnes pour échanger sur leurs pratiques sexuelles et que ces personnes ne savaient pas qu'elles étaient en direct dans l'émission. Donc, vous voyez, c'est pas d'avoir des avis sur les manquements ou pas, c'est vraiment des précis qui sont instruits par des textes de loi, par des cours, et c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Donc c'est ça qui est mis en cause.
Et je me permets de revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de la liberté d'expression. C'est vrai que c'est un argument qui ressort fréquemment de la part des personnes accusées de discours haineux ou ostracisants, discriminatoires. Comment il faut la comprendre aujourd'hui, la liberté d'expression? Comment on la recadre de manière à ce qu'elle entre effectivement dans un état de loi?
Justement, c'est ça. C'est que la liberté d'expression, c'est pas un open bar, quoi. C'est au moins en Europe et en France, c'est tout à fait encadré par la loi. Et c'est comme la liberté de création artistique, elle est consacrée par la loi, mais les deux s'inscrivent dans le respect des principes qui encadrent ces libertés, qui n'est pas illimitée. Les discours de haine ou les incitations à la discrimination sont sanctionnés. Et on ne peut pas manipuler les gens en disant c'est la liberté d'expression. C'est pourquoi je propose dans mon livre des solutions, en m'inspirant de la célèbre fresque du climat qui je trouve est très, très. Apporte beaucoup de connaissances et mobilise beaucoup de citoyens, c'est d'avoir une fresque de l'esprit critique, parce qu'aujourd'hui, comme vous le soulignez, on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne connaît pas les textes qui s'y réfèrent, qui la limitent, et je pense qu'il faut une éducation à ces concepts, parce que la liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire n'importe quoi, de susciter la haine, de susciter le buzz, c'est voilà, les mauvais penchants, ça c'est pas la liberté d'expression. En France, et concernant les journalistes, c'est pour ça que dans le livre, je m'attache beaucoup à la déontologie, c'est-à-dire que, bien sûr, il faut un pluralisme, bien sûr, il faut une indépendance éditoriale, mais le troisième pilier, c'est la déontologie. Et la presse a de nombreuses règles, de nombreux codes de déontologie, et notamment la dernière charte la charte, je crois, de 2019, qui rappelle que le journaliste veille à ce que la diffusion d'une information ne contribue pas à nourrir la haine ou les préjugés, et que une faute, le journaliste considérera comme faute professionnelle grave le plagiat, la distorsion des faits, la calomnie, la médisance, la diffamation, les accusations sans fondement. Voilà, ça c'est la déontologie des journalistes. Le reste c'est du café, du commerce, et ce n'est pas digne d'être appelé chaîne d'information.
Et c'est ces chaînes justement qui ne respectent pas les règles de l'ARCOM, la déontologie, sont d'autant plus inquiétantes, puisque d'après un article du Monde du 2 janvier 2024 par Aude Dassonville, BFM TV et CNews sont les deux chaînes d'infos les plus regardées en 2023. Donc on constate que les téléspectateurs abandonnent les chaînes d'infos publiques pour ces chaînes ces chaînes privées, et on remarque aussi une forme de sacralisation de ces personnages. Ça passe notamment par Cyril, par le personnage de Cyril Hanouna, mais aussi le directeur du groupe Canal, Vincent Balloré. C'est Claire Secaille qui analyse ça dans son essai Touche pas à mon peuple. Elle souligne que dans l'émission Touche pas à mon poste, organise un dénigrement systématique des personnalités ayant formulé une critique contre Cyril Hanouna, qui lui-même organise ce dénigrement face aux personnes qui ont émis une critique vis-à-vis de Vincent Bolloré. Donc il y a une vraie sacralisation de ces personnages, et qui a l'air de fonctionner en plus. Est-ce que cette sacralisation, elle n'est pas le fruit d'un manque de regard critique du public quand même ? Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité du public ?
Mais certainement. C'est pour ça que je vous parlais de la fait que l'esprit critique, qui à mon avis devrait être, enfin bon, ça peut être un autre nom, c'est pas ça, mais déployé rapidement, parce que ces personnages-là, en fait, ces chaînes-là comptent sur les réseaux sociaux pour avoir un écho considérable, parce que plus ça choque, plus il y a des amendes, plus ça fait du buzz, etc. Mais c'est pour ça que moi, ce qui m'inquiète, c'est que il y a eu des études qui ont expliqué que quand même les personnes qui regardent ces émissions-là, le danger, c'est qu'elles n'en regardent pas d'autres, et que ce sont peut-être les personnes qui ont le moins accès à l'éducation, le moins accès à d'autres sources plus beaucoup mieux équilibrées. Et c'est un peu ça aussi le rapprochement avec le réchauffement climatique, c'est que le réchauffement climatique affecte les pays les plus pauvres, et le réchauffement des esprits va affecter plus ceux qui n'ont pas d'autres solutions, enfin, ils n'ont pas, c'est pas qu'on leur impose de regarder ces chaînes, mais elles sont tellement flattées par ces animateurs qui leur disent qu'ils sont aussi intelligents que tous ceux qui ont des expertises scientifiques, etc., que ça nourrit un ressentiment et ça crée des bulles, et c'est en ça que c'est dangereux. Mais en même temps, dans le domaine de la presse écrite, c'est ce que j'écris dans mon livre, je m'attache à bien étudier le groupe Ouest France, qui a une politique RSE très ambitieuse, avec des indicateurs, des objectifs et une vision très claire. Et Ouest France est le site d'information le plus consulté en France. Donc on a bien là que la valeur économique, elle va de pair avec la valeur de la responsabilité sociétale d'un groupe. Mais c'est pour ça que j'ai voulu tirer ce signal d'alarme, parce que il faut que les citoyens s'équipent de boussole pour interroger ces entreprises et leur demander des comptes positifs ou négatifs, mais qu'elles ne naviguent pas dans un flou entretenu. Et même les entreprises culturelles ont intérêt à expliquer leur vision du monde. C'est pour ça que je raccroche ce sujet au développement durable. C'est que le développement durable, dans la conclusion du rapport Brundtland, vise, pour la citer, l'harmonie entre les êtres humains et l'harmonie entre les êtres humains et la nature. Et l'harmonie entre les êtres humains, c'est une belle mission pour les industries culturelles. Comment, par leurs investissements, elles nourrissent les imaginaires, les diversités de représentation, les récits, comment elles rémunèrent les artistes, c'est un sujet crucial pour alimenter cette diversité culturelle, comment elles protègent les intérêts des enfants en ligne, comment elles ont leur propre vision des droits humains, parce que les droits humains, ce sont des droits qui sont bien définis, qui sont universels et inaliénables et interconnectés. Donc il y a tout un champ d'études, et c'est ça que je propose aux citoyens, qui doivent s'en emparer, et ça permettra le dialogue le plus constructif possible entre ces entreprises et leurs parties prenantes. Et c'est comme ça qu'on va mobiliser des personnes qui vont se sentir acteurs ou actrices de la manière dont elles reçoivent ces biens ou ces services des industries culturelles.
Alors pour finir, quel est votre objectif en fait en venant ce 22 mars au Carrefour de la Pensée ?
Ben, mon objectif est déjà de partager ces réflexions avec d'autres, d'écouter beaucoup parce que le programme est passionnant, et puis de voir comment on peut se servir de ce cadre du développement durable, qui est un cadre qui je trouve très important, très, très, très ambitieux et très efficace, dès lors qu'on réintègre la culture dedans. Tous les colloques en général qui parlent de développement durable se limitent à l'empreinte carbone, pour faire très court, à la biodiversité, etc. Et qui, encore une fois, ce sont des enjeux majeurs, mais qui laissent de côté ce secteur très puissant, très influent sur la manière dont les psychés sont nourris de contenu qui ouvre aux autres, qui évite le repli sur soi, qui favorise l'épanouissement individuel et en même temps consolide la cohésion sociale. Donc, quelle est leur contribution au bien commun? Et je pense que les industries culturelles ont tout intérêt à partager cette vision-là dans les colloques qui veulent parler de la vision de l'agenda 2030 et de ces sujets-là.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal Tumoil. Est-ce que vous pouvez nous redonner les références de votre livre?
Alors, ça s'appelle « Réchauffement des esprits, la responsabilité sociétale des industries culturelles » et c'est publié chez Actes Sud.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal Tumoil, pour avoir répondu aux questions de l'Amphi.
Merci à vous.
On vous retrouve donc au Carrefour de la Pensée, vendredi 22 mars, à 15h, au Palais des Congrès. On revient dans quelques instants pour les chroniques étudiantes. Tout de suite, on écoute Rammstein, « Ich will ».
Ich will, dass ihr mir vertraut. Ich will, dass ihr mir glaubt. Ich will eure Blicke spüren. Ich will jeden Herzschlag kontrollieren. Ich will eure Stimmen hören. Ich will die Ruhe stören. Ich will, dass ihr mich gut seht. Ich will, dass ihr mich versteht.
Retour dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on est avec Clémentine, comme tous les jeudis. Salut Clem.
Salut Charlie.
Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Eh bah aujourd'hui, on va continuer sur les autres coins incontournables de la Slovénie.
Eh bah c'est parti.
Alors ce soir, j'ai décidé de vous en dire plus sur une des réserves nationales d'ours du pays et sur la ville de Piran. Lors de notre voyage, nous avons décidé de nous rendre dans le parc de Notranjski Regiski. À noter que ma prononciation est sûrement très mauvaise. Ce parc se situe dans la région de Cerknica, au sud de la Slovénie, et a d'ailleurs donné son nom au majestueux lac de Cerknica, qui est aussi, selon moi, un incontournable à ne pas oublier pendant votre séjour. À l'automne, les couleurs sont magnifiques car le lac est encerclé par la nature. Pour en revenir au parc de Notranjski, il s'agit d'une immense réserve naturelle dans laquelle vous pouvez vous rendre pour vous balader, contempler la beauté des paysages slovènes et aussi pour y observer les ours en pleine nature. Mais attention, il ne s'agit pas de les perturber. Si vous vous rendez dans ce parc, vous devrez être très précautionneux sur la nature et la condition animale. C'est un endroit très calme. Il ne faut donc pas s'amuser à vouloir faire peur aux ours en étant bruyant. Un peu partout dans le parc, vous trouverez des cabanes perchées dans les hauteurs des arbres pour observer les ours bruns. Vous aurez peut-être la chance d'en apercevoir un au loin. Ils sont de petite taille et si beaux. Avec Goulwen, c'est en octobre 2022 que nous nous sommes rendus là-bas. On a donc eu beaucoup de chance de pouvoir à la fois profiter des magnifiques couleurs de l'automne, des randonnées, des ours et de pouvoir pratiquer la course à pied au cœur des sentiers du parc. Mais gare à vous. Si vous décidez de vous aventurer à la recherche des ours pour les observer, réfléchissez-y bien avant et étudiez les conditions. Pour notre part, c'était la saison des petits lorsque nous y étions. Les informations, qui se trouvent un peu partout dans le parc, indiquent que les ours sortent la nuit principalement et donnent des conseils en cas de rencontre imprévue avec l'un d'entre eux. Comme c'était donc la saison des naissances, nous ne nous sommes pas aventurés la nuit. Seulement le jour et nous rentrions au camion juste avant que la nuit tombe. On a pu suivre leurs pas, et même si ces ours sont considérés comme étant de petite taille, la taille de l'une de leurs pattes faisait bien 5 à 6 fois la taille de ma main. Cet endroit était si époustouflant et ressourçant que nous y sommes restés presque une semaine entière. En plus, près de notre campement, qui se situait sur un lieu prévu pour les camping-cars, nous avons fait la rencontre d'un ami. Il était un peu timide, voire très timide et très peureux. C'était un petit chat, que l'on a décidé de surnommer Bâton. Car la première fois que l'on a réussi à l'approcher, c'était en jouant avec lui avec un bâton. Alors oui, le nom ne claque pas. Mais on s'est fortement attaché à lui. Jour après jour, heure après heure, il acceptait de nous approcher tout en restant un peu distant. Parfois, il restait même assis à côté de nous pendant une heure à regarder les paysages à nos côtés. En plus, il faut dire que Charlie Y, qui est mon chat qui habite chez mes parents, et non pas Charlie IE, l'animateur de cette émission, me manquait énormément. Alors j'étais très contente de me lier avec un petit chat. Le plus dur fut le moment où l'on a dû reprendre la route et dire au revoir à tous ces beaux paysages et à notre cher petit bâton. Nous étions un peu tristes, mais le moment était venu pour nous de continuer notre chemin. C'est pourquoi, après cette belle semaine, nous avons pris la route en direction de Piran. Piran est une petite ville fortifiée, située au sud-ouest de la Slovénie, qui auparavant était rattachée à la République de Venise. Il s'agit donc d'une ville initialement italienne qui est devenue slovène. C'est pour cela qu'en vous y rendant, vous pourrez apprécier le mélange de cultures qui permet de retrouver les chaudes couleurs italiennes et sa gastronomie. Les habitants sont très accueillants et parlent italien et slovène. Il y a aussi un très joli port au bord duquel vous pourrez observer les splendides teintes du coucher de soleil. Pour celles et ceux qui aiment l'Italie, je vous conseille fortement de vous y rendre sans hésitation. Piran, c'est un peu la petite Venise. Il y a des petites ruelles, de la chaleur, des pirogues, la mer et de la nourriture italienne. On a d'ailleurs mangé d'excellentes pizzas végétariennes et il n'y a pas à dire, ce ne sont pas de fausses pizzas italiennes. Enfin, je vous conseille de grimper tout en haut de la tour du clocher de Piran qui vous permettra de contempler à la fois la ville et la mer Adriatique. Vous devrez aussi visiter le monastère de Piran avant de retourner en terrasse pour prendre un verre et profiter de la fin de journée tout en vous reposant. Alors préparez vos affaires et dirigez-vous dans ces endroits incontournables qui vous feront passer d'inoubliables moments à vous en couper le souffle. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à bientôt pour découvrir un autre pays qui lui aussi regorge de fantastiques endroits. À bientôt.
Eh bien, merci beaucoup Clem pour avoir appelé ton chat comme moi.
Mais de rien Charlie.
Et merci à vous d'avoir suivi l'Amphi. On se retrouve vendredi 22 mars pour une émission spéciale. Ou avec les chroniqueurs, on vous partagera plusieurs conseils culturels, que ce soit des livres, des films, de la musique ou autre. À bientôt dans l'Amphi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.